vraiment, je veux que nos cœurs soient bien ouverts, qu'on soit réceptifs à ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Est-ce que la lumière soit ici, hein? Je m'excuse. Voilà. C'est mieux, hein? Mais avant d'aller dans la parole, on va faire cette déclaration de la foi. Je vous invite à prendre votre Bible dans vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille avec presque tous les versets qui sont écrits là-dessus. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Parce que la parole va faire son œuvre. La parole va agir dans mon cœur, dans ma vie, parce que j'y crois. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, vous savez que depuis 9 semaines, on a parlé du sujet de la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. On a dit que dans la vie chrétienne, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu doit être reçu par la foi. On a vu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe? Et il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que c'est pas assez juste de croire que Dieu existe. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe. Il y en a qui croient que Dieu est méchant, que Dieu est sévère, que Dieu est vraiment pas de bonne humeur. Mais on sait que la réalité, c'est que Dieu est amour et Dieu est bon. Dieu nous aime et il veut nous faire du bien. Il n'est pas juste quelqu'un qui existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? On a parlé de toutes sortes de choses qu'il faut croire avant de voir. On a parlé la semaine passée du fait que la foi a une voix. Et que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et si on a vraiment la foi dans notre cœur, on va exprimer notre foi avec un langage de foi. On va déclarer et dire la même chose que Dieu dit, n'est-ce pas? Tous ces principes sont essentiels et on a même eu ce matin plusieurs témoignages des personnes qui ont eu vraiment une manifestation de sa puissance par rapport à leur foi. Des personnes qui ont été guéries de l'asthme, un bébé dans le ventre de maman qui avait des kystes au cerveau qui sont disparus, hein, etc., etc., etc. Dieu est bon, Dieu est grand et Dieu est puissant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est tellement, tellement important que si on peut saisir la réalité de ce message, ça va nous propulser et ça va nous aider à aller de l'avant. Notre foi va grandir, notre foi va devenir de plus en plus efficace. Mais le contraire est aussi vrai, que si on ne comprend pas ce message ce matin et si on ne marche pas selon les principes de ce message, ça peut même bloquer qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie, et ça peut mettre des freins sur qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Donc, vous voyez, c'est un sujet tellement important, c'est un sujet de joie, mais on va parler de la foi qui agit par l'amour. Tout le monde dit la foi agit par l'amour. Il y a 2 versets qu'on va lire juste pour commencer. Premièrement, c'est en Galates chapitre 5, verset 6. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Tout le monde dit la foi qui agit par l'amour. Donc, on va voir aujourd'hui que la foi agit par l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour mélangé avec votre foi, comme on a dit l'autre jour, la parole de Dieu qui n'est pas mélangée avec la foi est inactive et elle ne fait rien. De la même façon, une foi qui n'est pas infusée de l'amour de Dieu, c'est une foi inefficace, une foi qui ne fonctionne pas, une foi qui ne peut pas produire des résultats. Comme on a dit, la foi, ce n'est pas une formule, ce n'est pas apaiser les bons boutons au bon moment pour produire le bon résultat. La foi, c'est pas tordre le bras de Dieu. Il y a des personnes qui ont cette perception que si je dis exactement la bonne chose au bon moment, que ça, c'est comme la magie, abracadabra, j'ai le résultat que je cherche. La foi, c'est une relation avec Dieu, n'est-ce pas? La foi, c'est connaître Dieu, connaître sa volonté, connaître sa parole et agir en conséquence par amour. Amen? Il y a un autre verset en Éphésiens chapitre 6, 23 qui dit que la paix et l'amour... Ah, je vais reculer. Et ceux qui étaient là mercredi soir, il y a un mois ou deux, vous savez où je vais? Éphésiens 6, 23, on a étudié, on a fait toute une heure juste sur Éphésiens 6, 23. Que la paix et l'amour avec la foi. Et vous riez parce que vous étiez là mercredi, hein? Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'amour avec la foi, c'est un ingrédient essentiel pour notre vie chrétienne et c'est un ingrédient essentiel si on veut vraiment aller de l'avant dans notre vie spirituelle. Comme on a dit le mercredi soir, il y a quelques semaines, hein, on peut avoir des frites, on peut avoir le fromage en grains, on peut avoir un peu de sauce. Mais si tu manges les frites lundi, tu manges la sauce mardi, tu manges le fromage mercredi, vous n'avez pas mangé une poutine. Vous avez mangé les frites, vous avez mangé la sauce, vous avez mangé le fromage, mais vous n'avez pas mangé la poutine. Et c'est pas le même effet, vous êtes d'accord? Ça produit pas le même résultat. On a besoin des frites avec le fromage. Les frites avec le fromage et la sauce. Et là, on a une poutine. Et c'est la même chose. Si on a la foi, mais on n'a pas de l'amour, on a l'amour et on n'a pas la foi, on n'a pas le même résultat. C'est l'amour avec la foi qui produit le résultat. L'amour avec la foi. Tout le monde dit l'amour avec la foi. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Il y a trois choses qu'on va souligner juste pour commencer ce matin. Premièrement, on voit que l'amour donne action à notre foi. L'amour donne action à notre foi. Parce que j'aime Dieu et parce que j'aime mon entourage, je vais agir par la foi. Et quelqu'un qui peut, il y a des gens qui peuvent entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des personnes qui peuvent entendre la parole de Dieu, mais à moins que la personne soit infusée de l'amour de Dieu, à moins que la personne soit convaincue que Dieu est bon, que Dieu est amour, et à moins que l'amour qui est répandu dans le cœur de la personne ne soit pas activé, la foi reste inactive aussi. Et la parole de Dieu est tellement claire là-dessus. On peut voir cela. En fait, il y a une autre version, dans une autre version biblique de Galates 5, 6, qui dit car dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Soulignez ce mot opérante. La foi va opérer seulement dans le contexte de l'amour. La foi va agir seulement dans le contexte de l'amour. Amen. Donc, ça prend l'amour avec la foi dans votre vie. Ça prend la foi avec l'amour aussi. Donc, on continue. Il y a un autre verset en Jacques, chapitre 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère, une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez un peu, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la foi doit agir pour être une véritable foi. Et c'est l'amour qui nous fasse agir aussi. On voit cela dans la vie de Jésus. Jésus était souvent ému de compassion pour les malades. Et c'était son amour qui a fait en sorte que la foi de Dieu était active et activée dans la vie des gens, n'est-ce pas? L'amour avec la foi. Tout le monde dit l'amour avec la foi. C'est l'amour qui va activer notre foi, qui va faire bouger notre foi. Amen. Une autre chose qu'on sait, c'est que c'est l'amour qui bannit la crainte dans notre vie. L'amour bannit la crainte dans notre vie. En Jean 4, 18 dit, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte porte avec elle du tourment. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela, être tourmentés par la peur? Moi, je sais c'est quoi. Tourmenté. « Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. » Savez-vous que Dieu est amour? Il ne vous aime pas tout simplement, mais Dieu est amour. Et si nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'amour. Et l'amour de Dieu, selon la parole de Dieu, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La foi, l'amour sont les éléments essentiels. Mais l'amour bannit la crainte. Et pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que laissez-moi vous dire une chose. Il est impossible d'avoir confiance en Dieu et avoir peur en même temps. Il est impossible d'être dans la foi et dans la peur en même temps. Et si vous avez peur, vous n'êtes pas en train, à ce moment-là, d'agir par la foi. Amen? Et on voit cela dans l'exemple de Marc, chapitre 5, verset 35. Vous vous rappelez de l'histoire de Jaïrus, qui était un leader de la synagogue. Il avait une fille de 12 ans qui était malade et sur le point de mourir. Et le monsieur est allé chercher Jésus. Il demandait à Jésus de venir guérir sa fille parce qu'il aimait sa fille. C'est l'amour pour sa fille qui l'a fait agir, n'est-ce pas? C'était la compassion qu'il a eue pour sa fille qui a fait en sorte qu'il a fait un mouvement, il a bougé, il est allé chercher de l'aide. C'est l'amour qui a donné action à sa foi. Amen. Et ce monsieur est allé voir Jésus. Jésus était même en route pour aller guérir sa fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un d'autre qui avait besoin de l'aide aussi. Il y avait une femme atteinte d'une perte du sang. Une femme qui, depuis 12 ans aussi, n'est-ce pas intéressant? Au même moment que sa fille est venue au monde, elle est tombée malade. Et cette femme a entendu parler de Jésus. La foi est entrée dans son cœur. Et elle est allée chercher Jésus. Il y avait une foule de personnes qui suivaient Jésus. Et elle, je ne sais pas comment, si elle était à genoux ou quelque chose, mais elle a touché le bord du vêtement de Jésus et la puissance de Dieu est sortie de lui, est entrée en elle et elle fut guérie. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en route pour aller guérir une fille qui est vraiment gravement malade. Donc, Jésus est arrêté. Jésus avait un discours avec cette femme. Donc, ça a retardé Jésus dans son cheminement vers la fille. Et je sais que même mon épouse a amené un message là-dessus il n'y a pas longtemps, le mercredi soir. Mais vous savez que peu après cela, quelqu'un est arrivé et a annoncé à Jaïrus, « Dérange plus le maître, ta fille est morte. » Et à ce moment-là, il aurait pu imaginer, hein, qu'est-ce que les pensées qui auraient pu rouler dans la tête de monsieur? Ah! Oh, cette femme a dérangé le maître. C'est de sa faute. Si elle aurait laissé tranquille Jésus, ma fille serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mais, gloire à Dieu, l'amour et la foi vont de pair, n'est-ce pas? Donc, on voit que Jésus a entendu qu'est-ce que le monsieur a annoncé. Et ici, en Marc, chapitre 5, verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, soulignez cette phrase, tapez cette phrase sur votre ordinateur, imprimez-le, dans le caractère gros de même. Et postez ça sur votre miroir, dans votre chambre de bain. Fais quelque chose sans tenir compte de ces paroles. Pourquoi? Parce que souvent, on est porté à tenir trop compte de ce que les autres disent, n'est-ce pas? On a une tendance dans la vie chrétienne, on commence à croire quelque chose, on commence à aller de l'avant, et il y a toujours quelqu'un, soit une circonstance, une autre personne, qui est là pour nous décourager, pour nous annoncer une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Et il faut avoir assez de sagesse, de savoir quand il faut écouter et quand il faut fermer les oreilles en disant, non, j'aime mieux écouter qu'est-ce que Jésus dit que d'écouter qu'est-ce que les autres disent. Donc, Jésus a entendu, la fille est morte. J'écoute même pas ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il continue. Sa fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne crains pas, mais crois seulement. Et on ne peut pas avoir foi et avoir peur en même temps. Il est impossible. Et c'est pourquoi la foi agit par l'amour, car l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur bannit toute crainte. Quand je sais que je sais que je sais que Dieu m'aime et qu'il a donné son Fils pour moi et celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je sais que Dieu est bon, je sais qu'il m'aime et j'ai peur de rien. Amen? Donc encore nous voyons l'importance de l'amour par rapport à notre foi. Une autre raison pour laquelle il faut avoir l'amour avec la foi, c'est qu'un manque d'amour fait obstacle à notre foi. Un manque d'amour fait obstacle à notre foi. Laisse-moi vous dire une chose. Je l'ai dit à quelques membres de l'équipe pastorale hier soir. J'ai dit que j'ai planifié de prêcher ce message depuis quelques semaines. Et que je savais que, surtout parce que c'est le premier dimanche du mois, on va recevoir la Sainte-Cène tantôt. Et j'avais vraiment dans mon esprit qu'on avait besoin aujourd'hui de voir le rôle de l'amour par rapport à notre foi. Que ça serait une bonne façon pour nous de sceller cette série sur qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que si on étudie tous les autres éléments de la foi, l'importance de dire la bonne chose, l'importance de croire avant de voir, et on manque cet élément-là, un manque d'amour peut faire obstacle à notre foi. Mais c'est planifié depuis quelques semaines. Donc, mais à chaque fois, vous savez, il y a quelque chose qui arrive avec nous, les pasteurs. Ça arrive souvent. Donc, sur une base régulière, si ce n'est pas chaque semaine, c'est au moins une fois par mois, quelqu'un vient me voir après l'église et dit, « Est-ce que tu me visais pendant le message? Est-ce que tu parlais de moi? » Non, je t'assure, hein, je ne pensais pas à vous. Désolé, hein, je ne veux pas vous blesser, mais je ne pensais pas à vous ce matin. Hein. Donc, mais c'est ça qui est vrai. Et moi, je me suis dit, dans un sens, c'est bon. Parce que si quelqu'un se sent que, oh, c'est parce que la parole est pour vous, hein? Et c'est le Saint-Esprit qui vous vise. Et il ne manque jamais son coup non plus. Et savez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous vise pour vous bénir. Regardez votre voisin et dites, le Saint-Esprit vous vise pour vous bénir. Regardez votre voisin et dites, ce message, c'est pour vous. Non. Non. On va dire ceci. Ce message est pour moi. OK. Un manque d'amour fait obstacle à notre foi. Marc 11, 23 et 24, on l'a lu plusieurs fois pendant les dernières quelques semaines. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi, n'est-ce pas? Crois avant de voir. Mais voici qu'est-ce que Jésus a continué à dire. Et si on veut prêcher tout le conseil de Dieu, il ne faut pas oublier ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pourquoi? Parce que si vous ne pardonnez pas, votre foi va faire un court-circuit. On a dit que la foi, c'est de croire que Dieu existe, c'est comme le plug, hein, qu'on va brancher dans la prise électrique. On sait que ça prend les deux, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et quand on est branché à Dieu, la puissance coule. Mais si on a de la rancune dans notre cœur, le non-pardon dans notre cœur, si on est fâché avec le monde autour de nous, là, ça ne marche plus. La puissance coule. Pas. Amen? Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais crois que qu'est-ce que Dieu arrive, il le verra s'accomplir. Mais ce n'est pas pour rien non plus qu'il a fini cette récitation avec cette exhortation de pardonner les autres, n'est-ce pas? Ça va de pair avec ce que Pierre a dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Il parlait au mari. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Dans le fond, on peut dire marchez dans l'amour avec votre épouse, monsieur. Dans les versets précédents, il y a les exhortations pour les mesdames de marcher dans l'amour avec monsieur. Qu'il en soit ainsi, pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, est-ce que vous voyez jusqu'à quel point ce message de pardon, ce message d'amour divin, ce message d'aimer les autres comme on aime soi-même et d'aimer les autres comme Jésus, Christ nous a aimés, c'est essentiel, c'est lié, c'est l'amour avec la foi. C'est les frites avec la sauce et la fromage, hein? C'est l'amour avec la foi et la foi avec l'amour. La foi agit par l'amour et la foi n'agit pas sans l'amour. Et quand il y a un manque d'amour, un manque de pardon, on fait blocage à notre foi. C'est sérieux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour régler cela? Numéro 1, cherchez l'amour avant tout. Cherchez l'amour avant tout. Jésus a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre force, toutes vos pensées. Hein, vous comprenez? Et c'est quoi le deuxième? Aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Ça, c'est la chose qui est le plus important dans la vie. Cherchez avant tout d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Et savez-vous qu'en aimant Dieu et en aimant votre prochain, votre foi va grandir et votre foi va agir. Votre foi va avoir une action qui va produire des résultats. Avant tout. C'est-à-dire que même avant de chercher la manifestation de ce dont vous avez besoin. Comme on a dit souvent, cherchez pas la main de Dieu, cherchez la face de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Courez pas après les bénédictions, mais courez après celui qui bénit. En fait, la Bible nous enseigne, et même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que si mon peuple marche dans mes voies, s'ils sont obéissants, etc., que les bénédictions allaient les poursuivre. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on court après Dieu et les bénédictions de Dieu courent après nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez pas à être riche, cherchez Dieu, et il va vous faire enrichir. Cherchez pas forcément les bénédictions, mais cherchez lui. Aimez Dieu, aimez les gens dans votre entourage, et vous allez marcher dans la plénitude, et votre foi va grandir, et votre foi va être active et opérer avec efficacité. Amen. Avant tout. Puis 1 Pierre 4, 8 dit, « Avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. » Avant tout. Quand il dit « avant tout », ça veut dire quoi? Ça veut dire « avant tout ». Et dans la langue grecque, ça veut dire « avant tout ». Et les érudits qui ont étudié ces versets vont vous dire que « avant tout » veut dire « avant tout ». En premier lieu, ça doit être notre priorité. Il n'y a rien de plus important dans le corps de Christ que marcher dans l'amour. C'est plus important que les dons de l'Esprit. C'est plus important que les miracles. C'est plus important que les guérisons. C'est plus important que la prospérité. C'est plus important que tout. C'est marcher dans l'amour. Et si on fait cela, la guérison, la prospérité, toutes les autres choses que Dieu a promis vont nous poursuivre. Amen. Cet amour est divin. Cet amour est puissant. Et cet amour, selon Romains 5, 5, est déjà répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose que Dieu va faire. Donc, si vous êtes déjà né de nouveau, vous avez déjà reçu Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de prier, « Seigneur, donne-moi plus d'amour. » Parce que l'amour de Dieu est déjà répandu dans votre cœur. L'amour divin, l'agapé, l'amour inconditionnel est déjà dans votre cœur. Amen? Et cet amour, selon 1 Corinthiens 13, 4 à 8, qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste. Ça c'est bon, n'est-ce pas? Ne s'irrite pas. Voilà, tout le monde dit, ça c'est pour moi. Ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout. Wow. Mais là, je pense qu'il a exagéré un peu, hein? Non. Qui aime supporte tout et garde. Si vous pensez que c'est exagéré, pensez à Dieu et pensez jusqu'à quel point il nous a supportés. Dans nos faiblesses, dans nos... Qu'est-ce qu'on peut dire? Bêtises. N'est-ce pas? Il garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Donc, il faut que l'amour soit notre priorité numéro un. La vie chrétienne n'est pas facile, mais la vie chrétienne est simple. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Et la foi avec l'amour et l'amour avec la foi vont agir dans cette atmosphère. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est de demeurer dans l'amour divin. Demeurer dans l'amour divin. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça, c'est la foi, n'est-ce pas? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Est-ce que Jésus vous a aimé? Mais Jésus nous exhorte, demeurez dans mon amour. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de nous exhorter de demeurer dans l'amour de Dieu? C'est parce que nous avons tous une tendance à s'éloigner et de s'écarter, de s'égarer de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On marche dans l'amour quand tout va bien. Et Jésus a dit, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. Mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Combien de gens ici aimeraient avoir une joie parfaite? Gloire à Dieu. Marchez dans l'amour. Demeurez dans son amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Complètement, sans condition, sans fin, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de persévérance. Dieu nous appelle à marcher dans cet amour divin. Moi, je sais, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, le Seigneur nous appelle à faire grandir notre foi. Il veut que cette église soit une église qui a une foi qui est grande et efficace pour faire toutes les choses que Dieu veut faire et accomplir toute la vision et la mission que Dieu nous a confiée, n'est-ce pas? Ça va prendre une grande foi, mais ça va prendre un amour qui est aussi grand. Amen? Donc, verset 8 de 1 Pierre dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Afin d'hériter la bénédiction. » Voulez-vous hériter les bénédictions de Dieu? Voici la clé. Bénissez au lieu de maudire. Ne retournez pas le mal pour le mal. Aimez vos ennemis aussi bien que vos amis, n'est-ce pas? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui veut voir des jours heureux? Ça me tente, hein? Et vous? Mais comment est-ce qu'on fait cela? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. On a besoin des recherches de paix dans l'Église. Amen? Et numéro 3, ne jugez pas les autres, mais jugez-vous vous-même. Ça, c'est une clé. Quand on parle de marcher dans l'amour, la foi agit par l'amour. L'amour avec la foi. L'amour avec la foi agit par l'amour. Si on va vraiment marcher dans l'amour comme il faut, il va falloir qu'on se juge soi-même. Il faut qu'on examine notre foi. La parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Je pense qu'on peut appliquer le même principe, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans l'amour. Est-ce que vous marchez vraiment dans l'amour avec Dieu? Est-ce que vous marchez vraiment dans l'amour avec votre épouse, avec votre mari? Est-ce que vous marchez vraiment dans l'amour avec vos frères et vos sœurs dans le Seigneur? Est-ce que vous marchez dans l'amour avec votre entourage? Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment en train de manifester l'amour divin de Dieu qui est répandu dans votre cœur? Jugez-vous vous-même, mais jugez pas les autres. On a toujours une tendance, on écoute un message et souvent, les personnes disent, « Oh, j'ai besoin d'une copie de cette cassette parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de ce message. Donne-moi une copie, je vais donner ça à mon mari, je vais donner ça à ma femme ou mon frère. Ou... » Et des fois, c'est bon, hein? Des fois, on peut partager, mais avant tout, il faut s'examiner soi-même. Il faut dire, « Seigneur, ce message est sûrement pour moi aussi. Je sais que moi, j'ai besoin de grandir dans l'amour. L'amour est dans mon cœur, mais j'ai besoin par la foi. » Voici ce qui est intéressant. La foi agit par l'amour, mais l'amour agit par la foi aussi. Des fois, il faut croire avant de voir. Il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est-à-dire que je peux regarder ma vie et voir que certains éléments du fruit de l'esprit ne sont pas en manifestation comme ils devraient être, n'est-ce pas? On peut se regarder, on dit, bon, peut-être je devrais manifester un peu plus de patience, un peu plus de bonté, ou un peu plus de fidélité, ou un peu plus de joie dans ma vie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne supplie pas, on ne mendie pas, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la joie. On dit, non Seigneur, je crois de tout mon cœur que je suis né de nouveau, et que ton esprit est en mon esprit. Et que l'amour parfait de Dieu est déjà répandu dans mon cœur. Et Seigneur, l'amour que tu as placé dans mon cœur, aide-moi à faire grandir cet amour. C'est déjà là. Mais aide-moi à nourrir, à faire grandir et agir par cet amour. La joie qui est dans mon cœur, et je peux par la foi commencer à confesser. Merci Seigneur, je suis un homme plein d'amour. Merci Seigneur que je suis patient. Je suis plein de bonté. Merci Seigneur que je suis joyeux. Il y avait un grand homme de Dieu qui a eu une trentaine de personnes même ressuscitées d'entre les morts dans son ministère. Et souvent les personnes posaient la question, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Et il a dit, mais moi je ne me pose jamais cette question, je dis à moi-même comment je vais sentir. Et je commence chaque journée en me rendant heureux dans le Seigneur. Je prends une décision de louer Dieu et de dire, ça va être une belle journée aujourd'hui. Amen? Est-ce que ça veut dire qu'on peut, on va jamais avoir des défis ou des moments difficiles ou les larmes? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'on n'est pas obligé de se laisser diriger par nos émotions. On peut prendre une décision et par la foi activer l'amour et l'amour va activer la foi aussi. Les deux éléments ensemble vont s'entraider, n'est-ce pas? Mais jugez pas les autres. Matthieu 7, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement, comment on dit premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, on peut voir, hein, quelqu'un qui a un petit brin de scie dans son œil, mais il se promène avec un 2x4. Patrick, je vois que tu as un problème, là. Laisse-moi t'aider. Tu vas avoir de la misère. Tu vas le cogner, hein, avec ton 2x4. C'est ça qu'on fait souvent. On frappe les gens avec notre 2x4. On veut aider la personne, on voit quelqu'un, oh, il me semble que cette personne manque la foi, donc je vais l'aider. Tank! On fait plus mal que bien, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit, jugez-vous vous-même. Et à moins que la personne vous demande, ou à moins que la personne vous a donné le droit de parler dans votre vie, occupez-vous de vos oignons. Non, c'est vrai, hein? Parce qu'une chose que j'ai remarqué, souvent quand on enlève, comme Jésus nous a instruit, le poutre de notre œil, oh, comment ça? J'étais sûr qu'il y avait un brin de scie, là, mais je ne le vois plus. C'est parce que c'était juste le reflet de ton 2x4. C'est ça qui arrive souvent, hein? Donc, il faut marcher dans l'amour. Mais il faut juger soi-même. Et là, on va finir avec un verset qui est tellement bon. 1 Corinthiens chapitre 11. On va recevoir le repas du Seigneur tantôt. Et vous savez que la coupe représente le sang de Jésus qui est versé pour nous sauver de nos péchés. Le pain qu'on va manger représente le corps de Christ qui était brisé pour nous. Mais il y a deux significations de ce pain. Quand on parle du corps de Christ, la Bible dit, on va lire dans une minute, un verset qui dit qu'il faut discerner le corps de Christ. Et quand on discerne le corps de Christ, c'est-à-dire premièrement qu'on va reconnaître que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais son corps fut brisé pour notre guérison aussi. Et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On va discerner cela parce que mon peuple périsse faute de connaissance. Et un chrétien qui ne sait pas que par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri, peut être attaqué par l'ennemi et peut avoir toutes sortes de problèmes. Et comme on voit dans ces paroles ici, il peut même mourir. Mais il y a aussi un autre élément quand on parle de discerner le corps de Christ, c'est de réaliser que le corps de Christ, c'est nous. C'est nos frères et nos sœurs. Et quand je discerne le corps de Christ, je marche dans l'amour avec eux, je respecte mes frères, j'ai du respect pour mes sœurs, j'ai un amour profond, ardent et authentique pour les autres membres du corps de Christ. Amen. En sachant que si je touche à un de ses membres, je touche à Jésus lui-même. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons ces instructions de l'apôtre Paul, vraiment de l'Esprit-Saint à travers Paul, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, d'une façon indigne. Cela ne veut pas dire que vous êtes indigne, parce que sans Jésus, nous sommes tous indignes. Vous êtes d'accord? Notre justice, maintenant, c'est sa justice qui nous a confié par la grâce, par le moyen de la foi. La justice de Dieu, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Mais celui qui mange ou qui boit indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans reconnaître que Jésus est mort pour nous pardonner de toutes nos iniquités et pour nous guérir de toutes nos maladies, et sans marcher dans l'amour avec les autres membres du corps de Christ, il mange et boit en jugement contre lui-même. Et verset 30 dit quelque chose d'intéressant. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça va de pair avec ce que Jésus a dit. Si vous dites à cette montagne, au toit de là, Marc 11, 23, 24, mais 25 dit, mais si vous avez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, pardonnez. Ça va de pair avec cela. Ça va de pair avec qu'est-ce que Pierre a dit en Pierre 3, 7, afin que ça ne vienne pas un obstacle à vos prières. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on s'examine soi-même. Il veut qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas, pour qui j'ai de la rancune ou une personne que j'ai toujours besoin de pardonner? Seigneur, aujourd'hui, je prends une décision de discerner le corps de Christ, de marcher dans l'amour et dans le plus bref délai. S'il y a une friction ou une chicane ou une rupture, je vais aller régler la chose dans le plus bref délai. Ce n'est pas pour vous nous faire peur. Et ce n'est pas dans le sens que si vous ne faites pas ça, Dieu va vous frapper avec une maladie. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu, quand même, il y a quand même cet élément de jugement dans le sens que si on s'éloigne des principes de Dieu, si on s'éloigne de sa parole, si on s'éloigne de son amour, si on ne demeure pas dans l'amour, mais on s'égare de l'amour, la protection de Dieu ne marche plus dans notre vie. Et l'ennemi a le droit à ce moment-là de nous atteindre, de nous toucher. C'est pourquoi il faut tout de suite, si jamais on commence à s'égarer de l'amour, on dit non, je reste dans l'amour. Parce que celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut, lui va reposer sous les ailes de Dieu lui-même, sous la protection de Dieu. Amen. Et intéressant que Dieu dit à l'Église de Corinthe que c'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont malades, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui... Est-ce que je suis en train de dire qu'à chaque fois qu'une personne tombe malade, qu'il a commis un péché? Non. C'est une des raisons. Ce n'est pas la seule raison. Vous aurez dû suivre le cours de Vie Victorieuse. Je vous ai donné 6 raisons pour lesquelles les personnes tombe malade des fois, et des fois, c'est juste des microbes qui se promènent, ou un manque de sagesse, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Il y a toutes sortes d'éléments qui rentrent en jeu. Mais ici, c'est un élément essentiel. Beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes à faire fonctionner leur foi, c'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Soit ils ne comprennent pas l'amour de Dieu, ils ne comprennent pas jusqu'à quel point Dieu les aime. Et ils pensent, je ne suis pas digne de recevoir la guérison. J'ai fait trop de gaffes dans ma vie. N'est-ce pas? Ça marche pour les autres, mais pour moi, ça ne marcherait pas parce que je me connais trop bien. Mais l'amour bannit la crainte. Et quand vous êtes convaincu que Dieu vous aime parfaitement, qu'il vous a justifié, aucun problème. Vous pouvez recevoir et faire agir votre foi. Ça marche dans le domaine de la guérison et dans tous les autres domaines aussi. Donc ce matin, si les personnes qui vont servir la communion peuvent venir en avant, laissez-moi vous dire une chose. On a eu un bon temps ce matin. Est-ce que vous avez eu un bon temps à l'église ce matin? Mais ce n'est pas terminé. Et dans la mesure de possible, on aime toujours finir à midi. Mais laisse-moi vous dire, à moins que c'est une urgence j'aimerais vraiment vous encourager à juste oublier l'horloge pour quelques minutes. On ne va pas prendre longtemps, mais on va prendre quelques minutes de plus. On a pris quelques minutes de plus pour donner beaucoup de bons témoignages. C'était bon, n'est-ce pas? Au début. Mais je crois que ce matin, le Seigneur veut faire une œuvre profonde dans notre cœur. Je crois qu'il y a des personnes qui vont pardonner les blessures et les choses du passé qui les gardent liées. Et peut-être c'est des choses qui ont duré depuis des années. Peut-être c'est une chose récente. Je ne sais pas. Dieu connaît votre cœur. Moi, je ne pense pas à vous dans le sens d'essayer de régler vos problèmes. Je ne peux pas. Mais moi, dans mon cœur, je vais examiner moi-même et sonder mon cœur moi-même. Et je vais demander, Seigneur, je veux juste être sûr. Je veux checker. Est-ce que j'ai pris une offense dernièrement? Est-ce que j'ai été blessé par quelqu'un? Est-ce que j'ai manqué de discernement au niveau du corps de Christ? Dans le sens que j'ai oublié les bienfaits qu'il a pourvus sur la croix. Est-ce que j'ai manqué de discernement dans le sens que je n'ai pas honoré un membre du corps de Christ comme j'aurais dû l'honorer? Car Seigneur, tu nous aimes et tu veux nous bénir et tu fais tout pour nous bénir, Seigneur. Tu veux qu'on marche dans l'amour. Tu veux qu'on marche dans ta puissance. Et juste avant de servir le jus et le pain, j'aimerais juste que tous les yeux soient fermés. Peut-être vous êtes ici et vous dites, mais moi, je ne suis même pas sûr que je suis chrétien aujourd'hui. Je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais vraiment accepté Jésus comme mon sauveur, Seigneur personnel. Peut-être vous êtes là et vous n'avez pas l'assurance à 100% d'avoir une place réservée pour vous au ciel. Vous n'êtes pas certain que votre nom est écrit dans le livre de vie et que vous avez droit même d'entrer au ciel. Parce que la parole de Dieu dit que c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont droit à cette cité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a droit à Jésus. Tout le monde a droit de recevoir Jésus et son sacrifice. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Juste avec tous les yeux fermés, est-ce que quelqu'un qui lèverait la main en disant « Oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. » On aimerait prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste lever la main, je vais prier avec vous ce matin pour donner ta vie à Jésus. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant le Père. Je te prends une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus ce matin? Alléluia. Je reconnais la main de la personne qui a levé la main. Je sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus une fois. Et je veux juste t'exhorter. Et en même temps, exhorter tout le monde avec les yeux fermés. Tu n'as pas besoin de naître de nouveau encore une fois. Mais des fois, on a besoin juste de l'assurance. Des fois, on a des doutes, des émotions qui mettent en question notre salut. La parole de Dieu est claire que celui qui a le Fils a la vie. Et si tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et tu as vraiment, avec sincérité du cœur, confessé Jésus, tu es sauvé, tu es né de nouveau, et tu n'as pas besoin d'être né de nouveau encore. Mais on peut des fois avoir besoin de se consacrer davantage à lui. Amen. Donc, Père, au nom de Jésus, on prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, aide-nous à sonder notre cœur, examiner notre vie dans la lumière de ta parole, pour qu'on puisse marcher dans l'amour comme jamais auparavant. Cette église va être une église d'amour. Et l'amour va faire agir notre foi. Et la foi va faire bouger les obstacles. Et la foi va pouvoir nous faire avancer dans ton plan, dans tes projets au nom de Jésus. Si vous voulez commencer à servir, je vous invite à prendre les éléments dans vos mains, les tenir, on va les boire et manger ensemble.